Jean-Pierre Farandou n'ira pas au-delà des Jeux Olympiques. Le PDG de la SNCF ne sera pas reconduit à la tête du groupe pour un deuxième mandat à la tête de la SNCF, mais il assurera l'intérim jusqu'à la fin des JO. On en a parlé il n'y a pas si longtemps de Jean-Pierre Farandou. Il était au cœur d'une polémique parce qu'il avait négocié cet accord de fin de carrière avec les cheminots. Les quatre syndicats étaient d'accord et il avait été accusé de contourner d'une certaine manière. Ils avaient été accusés d'une certaine manière de contourner la réforme des retraites. Que s'est-il passé, Christophe ? Est-ce que c'est une surprise ?
Non, c'est pas une surprise. Depuis les mots un peu durs de Bruno Le Maire, la convocation, on savait qu'il y avait ce coup près de la limite d'âge parce qu'il avait besoin d'une dérogation pour aller au-delà des 68 ans. Mmh. On s'attendait à cette décision. Il y a un scénario construit par le gouvernement qui est à la fois rude pour Jean-Pierre Farandou, qui a fait beaucoup de choses à la SNCF et qui correspond au moment politique où Bruno Le Maire veut affirmer son autorité, où il veut donner et tout le gouvernement avec lui des signes que les réformes ne peuvent pas se contourner. Et donc la réforme des retraites doit s'appliquer à tout le monde. Et puis troisièmement, une ambiance d'économie à tous les étages de la puissance publique. Si ce cadeau, entre guillemets, fait aux salariés pour leur fin de carrière doit être financé par une aide de l'État ou par une augmentation des prix des billets, c'est non du côté du gouvernement. On verra à l'automne qui est chargé par le gouvernement de prolonger la modernisation de la SNCF. C'est rude, c'est compréhensible politiquement. Il y avait eu un couac entre le ministre des Transports, plutôt content de cet accord.
Lui, il avait l'air de féliciter. Voilà, il avait dit c'est gagnant-gagnant.
Gagnant-gagnant, le dialogue social a fait son travail. Et puis Bruno Le Maire, qui finalement l'a emporté. Un mot quand même sur le jeu des syndicats. Je pense que si les syndicats, notamment Sud, dont on va avoir un invité, mais aussi la CGT, n'avaient pas triomphé en disant « Ah ah, on a effacé la réforme Borne, on a effacé la réforme des retraites », ça aurait peut-être aidé Jean-Pierre Farandou à dire que ça n'était pas le cas. Ils ont un peu donné le bâton à Bruno Le Maire pour battre Jean-Pierre Farandou.
Alors justement, on est avec Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail. J'imagine que vous suivez le débat. Je reprends ce qu'a dit Christophe Barbier. Est-ce que c'est pas un peu de votre faute finalement si Jean-Pierre Farandou se retrouve dans cette position, vous qui avez dit on a réussi à contourner cette réforme des retraites?
Pour nous, ça démontre l'État aujourd'hui, le gouvernement Macron traite aujourd'hui ses mandataires sociaux comme il peut traiter le monde du travail. On a construit une bulle, on a construit un mensonge politique autour de cet accord. Je rappelle que quand même la SNCF c'est une entreprise 100% possédée par l'État. Donc les représentants de Bercy, les représentants de Matignon, etc. siègent au conseil d'administration de cette entreprise. Donc jouer les vierges effarouchées quelques jours après la signature de l'accord, ça ressemble plus à un alibi. Un montage politique pour pouvoir changer de président et très certainement encore nommer une relation ou un copain du président à la tête de la SNCF.
Il y a des noms qui circulent, hein. On parle d'Elisabeth Borne peut-être, de Jean Castex, et on va y revenir. Mais donc vous la trouvez injuste ? Vous la trouvez injuste, cette décision ?
Injuste ou pas, c'est pas à nous de la juger. On la trouve brutale. Être débarqué via un communiqué de presse le jour de l'audition du Sénat. Sur quelque chose qui a été monté de toutes pièces. Nous à notre sens. Il faudrait plus aller chercher du côté des oppositions ou des discussions qui a pu y avoir ou qui a encore autour notamment du financement du réseau et du fonds de concours qu'on demande à la SNCF de payer à l'État. Sur lequel Jean-Pierre Farandou s'opposait assez régulièrement aux représentants de l'État. Oui. Il faudrait plutôt aller chercher de ce côté-là, quoi.
Alors, vous parlez de l'audition justement de Jean-Pierre Farandou au Sénat. C'était tout à l'heure, juste après la publication de ce communiqué du gouvernement. On regarde l'audition. Il défend cet accord négocié avec les cheminots.
Je suis un infatigable du dialogue social. J'ai entendu les doutes et les critiques. Ma conviction, c'est que c'est un bon accord qui ne contourne pas la loi sur les retraites, qui est dans les pratiques des grandes entreprises publiques et privées. Son coût est raisonnable, avec de vrais bénéfices pour l'entreprise. Il ne coûtera rien, ni aux contribuables, ni aux clients, ni aux caisses de retraite. Il existait depuis 2008, et sa renégociation a été initiée à la demande des pouvoirs publics et conduite en responsabilité et en transparence.
On lui avait demandé de négocier et de sauver les Jeux Olympiques. Il avait réussi à le faire, non ?
Oui.
Elle est injuste, selon vous, cette décision ?
Moi, je pense que, j'espère que cette décision n'est pas définitive, parce que ça serait grave pour l'entreprise, ça serait grave pour les Jeux Olympiques, ça fait peser un risque sur les Jeux Olympiques, et c'est grave pour la France, parce que c'est quand même une très belle entreprise française. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Pierre Farandou, qui est un très bon patron ? Il a, d'abord, il n'a pas contourné la loi, comme il l'a dit, puisque la loi prévoit sur les retraites, prévoit que les entreprises doivent négocier l'aménagement de la fin de carrière en fonction de la pénibilité. C'est ce qu'il a fait. Et il l'a fait pour un montant, somme toute modeste, il l'a fait en payant sur les bénéfices de l'entreprise, car ce chef d'entreprise a réussi à faire que la SNCF renoue avec les excédents, premièrement. Deuxièmement, il a mis en application quand même une loi extrêmement lourde qui est la suppression du statut des cheminots, dont moi j'en pense le plus grand mal, parce que je crois que cette entreprise, il ne faut pas la déstabiliser, c'est une des meilleures entreprises au monde.
Mais sur le contournement...
Chaque ministre des Transports qui arrive pense à sa réforme avec ses marottes. Donc c'est une entreprise qui a été très fragilisée, et encore plus fragilisée par la réglementation stupide européenne qui impose de la concurrence à l'intérieur des entreprises publiques.
Vous dites qu'il n'y a pas eu de contournement de la réforme des retraites. Elle est très impopulaire, cette décision. Beaucoup de salariés du privé qui se disent c'est un peu deux poids deux mesures. Eux, ils ont le droit de partir bien avant. Et nous, on doit repousser l'âge légal.
Mais pas du tout. Les entreprises, vous savez, 80% des Français étaient contre la réforme des retraites, parce que c'est très anxiogène, cette réforme des retraites. Et donc, que dans une entreprise publique qui a fait ses preuves, qu'est-ce qu'on veut ? On veut privatiser. Et ceux qui ont attaqué cet accord, je pense, le font pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire ils rêvent d'une privatisation de la SNCF, c'est-à-dire une SNCF à l'anglaise, où l'on voit que la privatisation entraîne non seulement une explosion des prix, mais aussi une explosion des accidents. Et donc cette entreprise qui est aujourd'hui bien gérée, pour laquelle on a besoin d'un bon fonctionnement, qui est fragilisée, comme je l'ai dit, par des décisions venues de l'extérieur. Vous savez, la concurrence interne à la SNCF, Ça crée beaucoup de difficultés, parce que les entreprises étrangères viennent sur les lignes les plus rentables. Donc, cette entreprise est prise dans des injonctions contradictoires, c'est-à-dire faire marcher les trains, il a réussi, maîtriser les prix, il a réussi, et en même temps, assurer les services publics, c'est-à-dire y compris faire marcher les lignes déficitaires, et là-dessus, il a réussi.
Donc, cette décision totalement injuste.
On va écouter aussi...
Je
peux rajouter une seule phrase.
Une phrase, parce qu'on va faire tourner la parole.
Un patron qui fait bien son boulot est convoqué, et un autre qui se verse des dizaines de millions de dividendes, qui reçoit en plus des fonds publics, il n'est pas convoqué.
Donc on convoque. Ça, je pense que c'est pour le patron de Stellantis.
Oui, on convoque quand on fait des politiques sociales conformes à la loi, et on ne convoque pas les entreprises qui ont des comportements qui choquent les Français.
Vous ne la comprenez pas non plus, cette décision.
Cette polémique sur la retraite est une hypocrisie majeure. Si la loi sur les retraites a été imposée, j'allais dire de façon unilatérale et brutale par vos parlementaires, par le gouvernement, c'était justement parce que la solution contractuelle ne marchait pas. Au départ, le gouvernement avait dit que les entreprises s'arrangent entre elles. C'est le principe du libéralisme social, le contractuel. Et c'est parce qu'il n'y avait pas cette issue et que les syndicats bloqués que la loi Borne est passée en force. Quand on a un patron, en plus de l'entreprise, lié à l'État, qui dit « moi, je suis arrivé », à faire ce que vous n'étiez pas arrivé à faire. Vous n'avez pas obtenu ce consensus contractuel pour la loi des retraites qui devait correspondre à chaque besoin selon l'entreprise. Moi, j'y suis arrivé avec l'exemple qu'est la SNCF et on le montre des doigts. Et Éric Meillère a raison, vu les personnalités qui sont à la tête de la SNCF. Il n'est pas tout seul. Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'au moment où il a décidé d'opter pour cette option... Bercy, l'Elysée, Matignon n'étaient pas au courant.
Non, mais ce que dit Éric est juste. C'est impossible que Bercy ne soit pas au courant, à juste titre, sur une décision si importante.
Ils mentent.
Je crois que vous avez raison, c'est qu'il y a eu une déformation, une mauvaise interprétation, peut-être que le ministre a cru à cette mauvaise interprétation qui était donnée selon laquelle c'était la loi sur les retraites qui était mise en cause, alors que ce n'est pas le cas. La loi sur les retraites n'est pas bafouée par cette décision, et en plus l'État, donc les représentants du ministère des Finances, siègent au conseil d'administration de la SNCF, donc ils étaient forcément au courant.
En revanche, Ségolène, je suis moins optimiste que vous sur le fonctionnement de la SNCF. Je suis grand usager du train, vous certainement aussi. Il reste encore beaucoup de lacunes, beaucoup de carences, surtout le réseau secondaire.
Sur le remplaçant de Jean-Pierre Farandou, je vous ai ai vus sourire quand j'ai évoqué les noms de Jean Castex, d'Elisabeth Borne.
Non, c'est pas sérieux. C'est pas réaliste. On voit des anciens ministres partout. Alors à Sciences Po, c'est des anciens ministres. Aurélien Rousseau, Rémi Nabalac.
Elisabeth Borne a déclenché des grèves.
Moi, je suis partisan qu'on aille chercher à l'étranger un patron pour la SNCF, tout comme on a fait pour Air France, pour avoir une autre expérience.
Un japonais.
Par exemple, au Japon, par exemple, à la Deutsche Bahn, pourquoi pas en Italie, pourquoi? Contrairement à Ségolène Royal, pense que la concurrence, l'ouverture à la concurrence n'est pas une déstabilisation, mais une émulation. D'abord, ça marche dans les deux sens. Si la Renfe ou Trenitalia propose aujourd'hui des TGV Paris-Lyon, la SNCF peut aller en Allemagne, en Italie ou en Espagne, proposer de la
concurrence.
Vous ne croyez pas qu'on a assez à faire à gérer la SNCF?
Je trouve bien que les entreprises étrangères louent des créneaux de passage et offrent aux Français une autre
disponible.
Soyons sérieux. On incite les gens à prendre de plus en plus le train parce que c'est écologique.
Allez, c'est terminé,
et le prix est de plus en plus élevé. C'est la concurrence qui fera baisser les prix et qui permettra aux familles de prendre le train et de moins polluer.
C'est le terminus pour reprendre les mots de Péricolégas.